Bonjour Geneviève Azam.
Bonjour, bonjour Claire.
Bonjour, vous êtes donc économiste, membre du comité d'attaque et membre aussi du comité de rédaction de la revue Terrestre, qui est une revue qui se penche sur la question écologique. On s'est rencontrés avec Le Grain des Choses sur le numéro Bruit de fond. On s'était rencontrés autour de votre livre Lettre à la Terre et La Terre répond. On avait fait un entretien à ce moment-là qui est toujours disponible sur le numéro 2. Donc, on avait envie de continuer la discussion avec vous dans le cadre de ce nouveau numéro du Grain des Choses, Archives du présent, mémoire du futur. Parce qu'on est dans un moment qu'on a envie de questionner, un moment un peu brumeux, où il est difficile de se projeter, où finalement la question de l'après n'est pas forcément tout à fait la bonne. C'est peut-être pas le mot idéal pour aujourd'hui. On est peut-être plus dans le maintenant. Qui est assez prépondérant, même si c'est quand même assez complexe d'être dans le maintenant. Donc, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Et qu'est-ce qu'on traverse? C'est peut-être autour de cette question de la traversée qu'on avait envie d'avoir cette discussion avec vous. Quelle est la couleur de cette traversée? Quels sont ses détails, sa particularité? Qu'est-ce que cette traversée offre comme chance ou comme danger?
Je pense que j'aime beaucoup l'idée de traverser parce que dans le premier confinement du printemps, ce premier confinement a été vécu, je pense, comme un événement, quelque chose d'un choc brutal, inattendu, assez inouï dans la mesure où tout à coup, on pouvait avoir l'impression que tout s'arrêtait et on a vu fleurir beaucoup de textes sur le monde d'après, qui devait être radicalement différent du monde d'avant. Et déjà, on pouvait s'inquiéter de cette projection du monde d'après, sur le monde d'après, comme peut-être difficulté à traverser le monde présent et à véritablement éprouver toutes les nécessités du monde présent. Je crois que dans le confinement d'automne, disons, le confinement acte 2, on n'est plus dans un événement, on n'est plus dans un choc qui nous aurait percutés. C'est comme si nous étions dans une sorte d'état qui s'installe, une situation qui s'installe dans la durée, une sorte d'état d'urgence permanent, diraient certains, auquel nous sommes sommés de nous adapter. Et donc, c'est plus le discours et plus celui-ci, vivre avec le virus, vivre, apprendre de la situation, etc., et non pas se projeter dans le monde d'après. Alors, je crois que quotidiennement, nous sommes tous face à des déchirements, des tiraillements, justement, entre le fait de devoir, et je pense que c'est un impératif éthique, philosophique, devoir traverser pleinement cette pandémie, sans se projeter dans ce qu'il y aura après, et donc oublier le présent, être incapable de voir ce qui est en train d'arriver, et que c'est peut-être une chance, en traversant cette pandémie, de faire l'expérience concrète de la peur, de notre fragilité, l'expérience concrète de la vulnérabilité, d'affronter ces questions-là qui ont été toujours repoussées par une culture qui est plutôt centrée sur la toute-puissance, sur la maîtrise, et être ouvert finalement à une expérience aussi de la nature comme puissante, y compris dans ses plus petites composantes, un virus, comme active, un virus qui peut muter, une nature vivante, une nature active, une nature qui est aussi présente en nous, à laquelle nous appartenons, mais qui nous est aussi radicalement étrangère, qu'on ne peut pas maîtriser, il y a une part sauvage. Et donc, traverser pleinement cette pandémie, c'est aussi un accueil de la sensibilité. Il s'agit aussi de réanimer la nature, en quelque sorte, pour reprendre prise avec la présence de ses limites. Ceci est étranger à notre culture occidentale et au discours de la toute-puissance. Donc, traverser la pandémie plutôt que l'enjamber, comme nous y incite beaucoup de discours autour de la technologie de la guerre au virus. l'attente frénétique et les annonces frénétiques sur des vaccins, c'est-à-dire l'espérance technique toujours qui ne nous obligerait pas à traverser la pandémie, à nous projeter dans un après dans lequel le problème serait immédiatement résolu, etc., etc. Donc, nous sommes tiraillés entre cette exigence éthique, philosophique, politique de traverser pleinement la pandémie, de ne pas l'enjamber, et l'injonction à l'adaptation.
Oui, parce que dans la question de la promesse, il y a une promesse qui se fait, mais qui ne se fait pas à travers la maîtrise du monde. Donc il faut accepter cette fragilité-là.
Il faut accepter la vulnérabilité, il faut accepter la fragilité. C'est là que réside la promesse, peut-être, d'un avenir possible pour les humains, pour les autres qu'humains aussi. C'est dans la reconnaissance de la complexité. Donc cette expérience-là, de la complexité, de l'interdépendance, de la solidarité nécessaire, etc., c'est l'expérience de la fragilité, de la vulnérabilité. C'est là la promesse. Ce n'est pas une fragilité vécue comme un manque, mais comme au contraire un supplément d'air, un supplément de vie, un supplément d'âme et un supplément d'imaginaire aussi dans cette fragilité et dans la vulnérabilité au lieu de l'imaginaire pauvre, finalement, de la toute-puissance humaine qui d'ailleurs aujourd'hui est une toute-puissance machinique avec une intelligence artificielle, etc. Ce n'est pas une promesse, c'est un vrai cauchemar. Et donc, bien entendu que nous avons, en traversant cette pandémie, à protéger notre santé, non seulement individuelle mais collective, mais la santé, ce n'est pas simplement la santé biologique, c'est aussi protéger notre puissance d'agir, notre capacité à penser, à réfléchir, à poser les bonnes questions et à trouver éventuellement des réponses. Mais en même temps, et ça c'est le discours néolibéral depuis très longtemps, c'est l'injonction à l'adaptation d'un monde qui est ainsi, sur lequel nous ne pouvons rien finalement, et pour lequel il est urgent de s'adapter. C'est s'adapter aux catastrophes finalement, c'est le refus de rechercher les causes d'un événement. Ce virus, sa virulence, le fait qu'il se soit propagé aussi rapidement et la manière dont il s'est propagé, les couches sociales qu'il atteint, le profil même des personnes qu'il atteint, ce n'est pas sans cause. Et précisément, l'injonction de l'adaptation, c'est le refus aussi de réfléchir à ces causes profondes, structurelles, qui font que aujourd'hui la vie est perturbée par des virus alors que nous devrions vivre avec les virus justement, mais pas dans un sens de l'adaptation, c'est dans un sens au contraire de retisser la toile de vie.
Donc par rapport à cette question de ou ce mot de promesse, vous parliez avant d'une promesse liée à une non maîtrise ou une maîtrise tout à fait différente du monde. Ou une perte de la maîtrise qui pourrait ouvrir sur de la fragilité, sur des possibles. Là, la promesse de ce monde néolibéral, ce serait plutôt la promesse de revenir ou de conserver un même monde et qu'il se fige, qu'il ne change pas, qu'il ne bouge pas tant que ça.
Je ne suis pas certaine que ce soit obligatoirement le même monde. Je pense que ce virus aussi, finalement, et le chaos dans lequel nous sommes, aussi bien économique que social que sanitaire, est aussi un moment dans lequel, alors employons les gros mots, le capitalisme aussi se reconfigure. On voit aujourd'hui le poids de toutes les technologies, de l'information, de la communication qui prétendent remplacer finalement le contact social. C'est le monde sans contact finalement. Ce monde sans contact n'est pas un monde qui est contradictoire avec tout l'idéal néolibéral de l'individu centré sur lui-même, auto-centré, auto-entrepreneur de lui-même, autosuffisant, rivé finalement à un ordinateur et à des clics qui lui permettraient de produire, de consommer, de travailler à distance, etc. Ce qui est relativement réjouissant, entre guillemets, c'est que par exemple pour le travail à distance, ça ne fonctionne pas aussi bien que peut-être certaines l'auraient souhaité. cette idée de tout remplacer par un monde sans contact, je crois que c'est une utopie morbide, je pense, une utopie parce que un monde sans contact, c'est un monde mort, finalement, dans lequel la toile de vie a été complètement déchirée. Mais cette utopie, elle a des effets concrets, parce que je pense que certains conçoivent cela comme une promesse de se libérer de l'usine, de se libérer du travail, de travailler chez soi comme on veut, quand on veut, mais elle ne peut pas réellement fonctionner. Mais entre-temps, il y aura eu des destructions. Donc ce n'est pas le retour au monde d'avant.
Vous disiez, quand on a préparé cet entretien, qu'il y a un certain nombre de choses dont on ne parlait plus. Vous parliez de promesses déjà à ce moment-là, de la promesse du vaccin qui semble comme écraser un certain nombre d'autres champs de réflexion qui sont beaucoup apparus pendant le premier confinement. Des choses oui. comme la question de la délocalisation, par exemple, une autre manière de voir l'économie, la consommation.
Alors ça me frappe beaucoup quand même. Dans le premier confinement, on a beaucoup finalement parlé des produits de première nécessité ou des produits nécessaires. Là aussi, puisqu'on a considéré, en tout cas en France, les magasins sont fermés sauf les magasins de première nécessité. Donc nous avons eu un débat sur qu'est-ce qui est de première nécessité, mais un débat qui finalement n'est pas allé très très loin. Et cette réflexion qu'il peut y avoir sur la consommation, finalement, aujourd'hui, elle est complètement surdéterminée par des discussions sur quand les magasins pourront-ils ouvrir pour le Black Friday ou pas pour le Black Friday. Ce qui est resté, en tout cas, pour ce qui est de la France, c'est quelques réflexions par rapport à Amazon, des demandes par rapport à Amazon. Donc la prise de conscience quand même de l'intérêt, de l'importance des commerces de proximité, du tissu social, de cette toile de vie sociale aussi dans laquelle il y a les commerces de proximité. Mais il me semble que là, étant donné l'approfondissement de la crise économique, de la crise sociale, les mauvaises habitudes concernant la croissance, la relance, la nécessaire reprise de la consommation, etc., ont étouffé beaucoup de discussions qu'il y avait eu quand même dans le premier confinement.
Les questions écologiques aussi sont beaucoup moins présentes.
Alors les questions écologiques sont présentes, je pense. Il y a les mouvements sur le climat, sur la biodiversité, je crois, aujourd'hui sont vraiment, je dirais, très, très conscients. Ils sont là, ils se manifestent d'une manière ou d'une autre. En revanche, pour ce qui est du pouvoir, je crois, l'écologie passe vraiment en deuxième ou troisième position, ou bien ce sont des arguments de communication plus que réellement l'enclenchement de nouvelles politiques.
On s'était dit en début d'entretien qu'une des questions était qu'est-ce qu'on traverse aujourd'hui ? On va sûrement oublier beaucoup de choses et beaucoup de détails, donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est important qu'on essaye de les consigner, de les noter, pour ne pas les oublier pour la suite.
Oui, il y a d'ailleurs eu beaucoup d'écrits concernant justement tout ce qui se passe et je trouve que votre initiative de ce point de vue-là, des archives dans un monde qui tend à supprimer toutes les traces, à les remplacer par des clics, ça me paraît extrêmement important d'avoir le souci des archives du présent, de ne pas considérer cette histoire du virus, du confinement, de la pandémie comme un simple accident. D'un simple accident qui, finalement, une fois passé, nous permettrait de vaquer à nouveau à nos occupations préférées.
Moi, je notais une phrase de Paul Hermand, qui a écrit pour ce numéro du Grain des choses, qui est un compagnon de longue date. Il écrit « On aura l'air de quoi d'avoir pensé que le futur n'avait pas besoin de mémoire ?» Je vous donne la définition de la mémoire du futur. La mémoire du futur est une forêt d'indices. Je crois que c'est un petit peu ça aussi qu'on cherche, c'est de chercher avec les uns et les autres, avec les unes et les autres, les indices qui nous parlent d'aujourd'hui.
Oui, et voilà pourquoi pour trouver ces indices, il faut s'arrêter. faut regarder, il faut éprouver, contempler, il faut traverser véritablement. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce terme de, effectivement, de traverser. Et là, dans ce que vous me dites, je pense à un livre que j'ai lu récemment. C'est un livre de David Haskell, qui est un biologiste états-unien. Il a écrit beaucoup d'articles et il a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Un an dans la vie d'une forêt ». Et il observe pendant un an ce qu'il appelle un mandala tibétain, c'est-à-dire un tout petit espace de la forêt qu'il a délimité. Il s'y rend tous les jours et tous les jours dans les détails. Il nous fait vivre toutes ces modifications, tous ces changements dans les détails, tous ces indices justement des modifications. Eh bien nous, je crois que pour la société, pas seulement pour la forêt, nous devons être ces chasseurs d'indices. C'est une très très belle image et je vous remercie de l'avoir partagée avec moi.
Avec plaisir. À bientôt Geneviève.
À bientôt Claire,
et courage.
Merci beaucoup.
Oui, courage.
Merci.
Pour les semaines à venir. Au revoir.
Au revoir.
Le grain des choses. La revue sonore.